l'accent des autres avec les médias francophones publics.
Et voici l'actualité de la semaine vue par les partenaires des médias francophones publics, la radio-télévision suisse, RFI, France Bleu, Radio-Canada et la RTBF. Retour d'abord aujourd'hui sur cette visite éclair du président ukrainien à Bruxelles. Volodymyr Zelensky a signé un accord bilatéral avec la Belgique pour 10 ans, Jacques Kremers.
Cet accord prévoit une aide militaire belge à l'Ukraine avoisinant le milliard d'euros cette année, mais également il précise que ce sont bien 30 avions de combat F-16 qui seront livrés à l'Ukraine normalement jusqu'en 2028.
Les élections européennes, c'est dans 8 jours, en Belgique et en France en tout cas, parce que ce sera plutôt dans 6 pays. Et l'abstention pourrait bien être une nouvelle fois importante, notamment en France. Nous verrons que certains tentent de sensibiliser à l'importance du vote. En Suisse, La Poste va une nouvelle fois réduire son réseau physique de guichets. Pierre Anchoffa, elle s'adapte aux habitudes de la clientèle.
Usage des courriels et des réseaux, paiement bancaire en ligne, le recours au guichet postal s'est réduit de plus de moitié. Les solutions de substitution n'enthousiasment toujours pas les communes.
Cette décision judiciaire au Québec aussi, elle concerne le monde de la culture. Phileas Autier, les comédiens pourront continuer à fumer sur scène.
Oui, c'est une décision de justice tombée mercredi entre liberté d'expression et protection de la santé. C'est la liberté d'expression qui gagne.
Enfin, au Cameroun, un conflit entre la Fédération nationale de football, dirigée par Samuel Eto'o, et le ministère des Sports a tourné cette semaine au psychodrame, Nicolas Sûr.
Oui, il a commencé avec la décision du ministère de nommer un nouveau sélectionneur sans consulter la FECAFOOT. Et s'est envenimé jusqu'à une violente dispute avant que Samuel Eto'o ne finisse par présenter ses excuses.
Voilà donc pour les titres de la semaine. Cette visite éclair, donc tout d'abord du président ukrainien à Bruxelles. Volodymyr Zelensky était en Belgique mardi dernier et il est reparti avec une promesse d'aide, Jacques, et notamment la livraison annoncée d'une trentaine d'avions militaires F-16.
C'est en effet ce que prévoit cet accord bilatéral de sécurité qui lie les deux pays, Belgique et Ukraine, pour 10 ans. Il a été signé par le président ukrainien et le premier ministre belge Alexander De Croo. Cet accord prévoit une aide militaire belge avoisinant le milliard d'euros cette année, mais il précise donc aussi que ce sont 30 avions de combat F-16 qui seront livrés à l'Ukraine jusqu'en 2028 si le calendrier est respecté. Tout dépend de la livraison des premiers F-35 appelés à remplacer les F-16 belges, mais c'est bien la volonté des deux parties de déjà livrer les premiers appareils cette année encore à la satisfaction du président ukrainien.
Aujourd'hui, nous avons ouvert une nouvelle page dans les relations entre nos pays et c'est important pour la stabilité et la sécurité de toute l'Europe. Alexander, monsieur le Premier ministre, je suis reconnaissant pour l'accord de sécurité ambitieux et substantiel entre nos pays. En ce moment, alors que la Russie essaye d'étendre et de prolonger la guerre, nous avons besoin d'autant de mesures concrètes que possible pour rapprocher la paix. Merci pour cet accord de fourniture d'avions de combat à l'Ukraine. Merci pour cet accord de sécurité de 10 ans. Cette année, la Belgique nous a déjà apporté un soutien financier pour la défense de près d'un milliard d'euros.
Sur le tarmac de l'aéroport militaire de Melsbrook, le président ukrainien a pu voir les deux premiers appareils qui lui seront livrés. Il a aussi rencontré les pilotes et techniciens qui forment les pilotes ukrainiens. C'était la 4e visite de Volodymyr Zelensky en Belgique en 2 ans.
La Belgique qui vote la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler, élections régionales, fédérales et aussi européennes. C'est l'occasion de se rendre cette semaine en France où le taux d'abstention pourrait encore être très élevé cette année. L'une des causes de ce désintérêt pour les élections européennes, c'est que les électeurs ont parfois du mal à saisir le rôle des députés européens. Alors pour tenter d'y remédier, l'Association des jeunes européens de Bordeaux et le Centre Europe Direct ont simulé cette semaine une séance. Ça s'est passé à Pessac, non loin de Bordeaux. Le thème de la séance du jour, l'intelligence artificielle. Sur place, les volontaires ont débattu pendant plusieurs heures pour modifier un texte de loi. Reportage Gaspard Laniel.
17h, la séance peut commencer. Avant de se répartir en commission, les eurodéputés du jour sont appelés à présenter leur motivation.
Article 3, un amendement proposé par les Verts avec le rapporteur monsieur Olivier Michaud.
Pendant 2 heures, ils devront réfléchir sur des modifications à apporter sur le règlement et le modèle a l'air de plaire.
Pas facile, mais ça donne envie, on est très content de le faire.
C'est une expérience voilà. Constructive. Ça montre bien la complexité d'adapter un texte à l'ensemble des pays.
vraiment se mettre dans la peau d'un député. Je trouve que c'est assez stimulant pour nous.
Un exercice pas toujours évident, surtout que les participants n'ont pas pu choisir le parti politique qu'ils allaient représenter.
On essaie vraiment de penser comme eux, même si c'est compliqué.
Après, on ne peut jamais vraiment se mettre entièrement dans le personnage, mais c'est aussi ce qui est intéressant.
Là, en dehors de mes idées propres, je dois incarner quelque chose, c'est un peu comme du théâtre en fait, c'est ça qui est drôle quoi.
Après les discussions, place au vote, puis un second vote lors d'une séance plénière.
Le règlement concernant l'intelligence artificielle en Europe est adopté.
Si le format de cette réunion parlementaire a été volontairement réduit, l'objectif pour les organisateurs, c'était que les participants comprennent au mieux le fonctionnement du Parlement européen, un exercice pédagogique pour donner envie d'aller aux urnes le 9 juin prochain.
Reportage de Gaspard Laniel pour France Bleu Gironde.
L'accent des autres.
Cette grosse émotion provoquée par la Poste cette semaine en Suisse, la Poste qui va encore supprimer 170 succursales au cours des 4 prochaines années, Pierron.
Un café, une épicerie, un bureau de poste dans chaque village, cette image d'Épinal a vécu depuis longtemps déjà, en Suisse aussi, mais le sujet reste extrêmement sensible. De gauche à droite, les partis s'inquiètent pour le service universel qui voudrait que chacun ait accès aux mêmes prestations où qu'il habite. Sauf que les 600 offices de poste qui subsisteront sur les plus de 2000 communes seront là où se trouve la majorité de la clientèle.
Et ce n'est donc pas la première fois que la Poste réduit son réseau.
Non, l'entreprise en main publique s'adapte régulièrement au changement des habitudes de la clientèle. Les paiements au guichet ont diminué de 60% ces 8 dernières années. Quant aux lettres confiées à la Poste, elles ont chuté de moitié. En parallèle, entre 2016 et 2028, le réseau aura été réduit de moitié. Roberto Cirillo, le patron de la Poste.
On travaille avec des plans stratégiques à 4 ans. Et à fin 2028, la Poste aura, comme on l'a dit, 600 filiales en propre. Et on aura un réseau partout en Suisse de plus de 2000 points desservis pour la population et pour les petites et moyennes entreprises qui utilisent notre réseau.
Ces points desservis, ces agences postales dans les commerces ou des administrations ne convainquent pas tout le monde. Outre les services moins complets, le manque de discrétion dérange la présidente de l'Association pour la défense des usagers du service public, Andrea Igli.
Je ne vous parle pas de la confidentialité dans un tel bureau. On peut aller chercher une convocation de l'office de poursuite. Ben voilà, les gens qui viennent à la pharmacie, ils vont entendre tout ce qui est dit là.
Et puis ces solutions ne sont pas toujours pérennes, comme l'explique le syndic, le maire de la commune de Pré, David Bonny.
Dans le village voisin, à Lantigny, il y avait un guichet postal dans une épicerie. L'épicier est parti à la retraite, le guichet postal a disparu, donc ça demeure extrêmement précaire.
Les négociations de la Poste avec les communes qui perdront leur office s'annoncent tendues.
Les artistes québécois ont le droit de fumer sur scène. La décision est tombée mercredi. Elle émane de la Cour supérieure de la province canadienne, du Québec donc. Phileas, c'est une décision qui soulage le milieu artistique.
Oui, parce que l'autorité de première instance a d'abord condamné les théâtres. 3 salles situées dans la ville de Québec ont laissé des comédiens fumer durant une pièce entre 2017 et 2019. Et après des plaintes du public, des inspecteurs de l'État se sont glissés dans la salle. Ils ont vu les acteurs et actrices fumer des cigarettes de sauge. C'est une enfreinte à la loi qui interdit de fumer dans les lieux publics fermés. Ces agents ont donc infligé une amende à chaque théâtre. 500 dollars canadiens, c'est environ 330 euros et autant de francs suisses. Une contravention annulée par la décision prononcée mercredi par la Cour supérieure.
Alors comment explique-t-on ce revirement ?
Interdire de fumer en toutes circonstances au théâtre n'est pas raisonnable selon la Cour. Une application aussi stricte de la loi pour lutter contre le tabagisme contrevient à la liberté d'expression. C'est ce qu'estime le juge Jean-François Edmond. Cela contraint trop les artistes et ne présente pas assez d'avantages sur le plan de la santé publique. La Cour souligne que le travail des théâtres est au cœur des valeurs de liberté d'expression, un droit qu'il ne faut pas limiter avec légèreté. C'est bien cette liberté qui est en jeu, plus que quelques centaines de dollars d'amende, comme le détaille Anne-Marie Olivier, qui était directrice artistique d'un des théâtres lors du premier jugement.
On veut représenter la vie, et puis on doit prendre des décisions. Et quand il y a une instance au-dessus de nous qui nous dit « ce n'est pas possible », ben ça reste en nous. Donc on était très très heureux quand on a appris la nouvelle ce matin. Le juge savait ce que c'était que le théâtre et le rôle du théâtre dans la société. Une société où parfois la place de l'art, l'utilité de l'art est questionnée. Donc soulager vraiment de pouvoir continuer à pratiquer.
Soulager parce que leur point de vue a été parfaitement entendu par le juge Jean-François Edmond.
Et que répondent ceux qui souhaitaient interdire la cigarette dans les théâtres ?
que fumer, c'est dangereux, que la fumée passive aussi, c'est dangereux, et que même une cigarette n'est pas à considérer de manière anodine, comme l'explique Rob Cunningham. Il est analyste des politiques pour la Société canadienne du cancer.
Dans une pièce, peut-être on a un fusil, mais ce n'est pas un vrai fusil. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir une vraie cigarette, parce que le fumée secondaire est nocif. Et souvent, dans un théâtre, les environs ne sont pas très grands et les fumées secondaires va partout.
Protection de la santé du public contre protection de la liberté d'expression. La Cour supérieure a tranché. Dans ce cas, c'est la liberté d'expression qui gagne. Le juge invite donc les autorités québécoises à réviser la loi pour prévoir des exceptions à l'interdiction de fumer. Le gouvernement peut toutefois encore faire appel. Il dispose d'un délai de 30 jours.
On va se quitter cette semaine au Cameroun avec une décision du ministère des Sports. Il a choisi le nouveau sélectionneur et le nouveau staff technique de l'équipe nationale de football, les Lions Indomptables. Et cette décision, Nicolas, elle a provoqué une bataille rangée avec la FECAFOOT, c'est la Fédération Camerounaise de Football, et son patron, l'ancienne star Samuel Eto'o.
Oui, l'affaire commence quand le ministère des Sports annonce la nomination du Belge Marc Brice sur directive du président de la République Paul Biya après la contre-performance des Camerounais lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Une nomination illégale selon la FECAFOOT. Le ton monte pendant des semaines et mardi, quand Marc Brice se présente à la FECAFOOT pour une séance de travail avec un représentant du ministère, la rencontre tourne au vinaigre, surtout quand le Belge reproche à Eto'o de ne pas l'avoir reçu depuis son arrivée.
Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Il est temps d'arrêter ce bordel, mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Je peux faire ça en Belgique? J'ai été entraîneur.
Pour 3 semaines.
Oui, et j'ai été très très grand joueur.
Dans la foulée, Eto'o annonce le limogeage de Marc Brice et nomme un sélectionneur intérimaire. Coup de théâtre jeudi, quand le remplaçant annonce sa démission. L'après-midi même, Samuel Eto'o, lâché de toutes parts, siège en conférence de presse aux côtés de Marc Brice et lui présente des excuses.
Il y a eu beaucoup d'émotions. Je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Bienvenue chez vous encore, coach.
Fin momentanée d'une crise survenue alors que les Lions Indomptables préparent 2 matchs comptant pour les éliminatoires du prochain mondial. Une crise dans laquelle la FIFA, qui condamne pourtant les ingérences du politique dans les fédérations, aura surtout brillé par sa réserve.
Nicolas Sûr et RFI pour refermer l'accent des autres au Cameroun. Belle fin de semaine à vous et rendez-vous dans 8 jours pour un nouvel accent des autres. À très bientôt.